produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc.
Bonjour les amis, nous sommes sur les Radio Ma'arif pour les podcasts Le Muntakhab avec Reda Allali, qu'on n'a pas besoin de présenter, historien du foot par excellence, qui a vraiment... bonjour Reda.
Bonjour.
Qui a vraiment cherché pour reconstituer toute l'histoire et du foot au Maroc, dans le monde également, l'équipe nationale, les équipes nationales, ainsi que les dessous, un petit peu de certaines histoires.
Je suis passionné de l'équipe nationale parce que j'estime que l'équipe nationale du Maroc, le Muntakhab, c'est un objet très intéressant. C'est un objet politique, c'est un objet social, c'est un objet sportif de façon évidente. C'est quelque chose de très important chez nous comme facteur d'identification, facteur politique. Il a été utilisé, elle a été instrumentalisée. Enfin, je veux dire, en racontant l'histoire de Muntakhab, on peut raconter beaucoup de choses.
Voilà ce que absolument. Je
dire. Et de façon générale, le foot, pour moi, ça, c'est une fenêtre pour regarder le monde. Alors,
absolument. Donc,
dans le cadre de l'Afrique, on va parler de l'Afrique. Donc,
on va apprendre avec toi. La performance de 1970 au Mexique, on rate celle de 74 suite à cette histoire de match avec le Zaïre à l'époque, coaché par ce...
Un match très important, ce match contre le Zaïre, parce que c'est un match, alors ceux qui l'ont vécu te racontent un match dantesque, voilà, avec...
C'est la même équipe de 70 à peu près?
C'est la fin de l'équipe 70.
D'accord,
c'est
donc on commence à voir les noms...
Voilà, voilà. Mais c'est surtout un match qui est très important dans notre rapport avec l'Afrique, parce que... Alors, il n'y a pas les images. Par contre, il y a les témoignages, ça vaut ce que ça vaut, hein. Il ne faut pas tout prendre au premier degré, mais... En tout cas, c'est devenu ce Zaïre Maroc, sous Mobutu, qui nous élimine de la Coupe du Monde 74, est devenu le symbole de ce que les journalistes marocains vont appeler Edrel Ifelekhia. Edrel Ifelekhia, donc.
L'inconnu, quoi.
Edrel Ifelekhia, cette jungle, c'est un mélange de terrain pourri, d'arbitrage partial, de manipulation politique, de pression policière, de conditions dégueulasses, de nourriture infecte. Il y a une partie de racisme là-dedans.
Hein. C'est fait exprès, hein.
Mais c'est vraiment. D'ailleurs, on va pas jouer le match retour. On va refuser de jouer le match retour. Mais ça va vraiment construire. C'est un match très important, ce Zaïre Maroc, que la Coupe du Monde 74, je crois, c'est 3-0. En tout cas, c'est le divorce avec l'Afrique. Alors, pourquoi l'Afrique alors que c'est le Zaïre? Je ne sais pas. Mais c'est important de comprendre que ce match-là, on est l'équipe qui a joué en 70, qui a tenu le Real Madrid. On est l'équipe dont les phares, les champions, ont battu le Real Madrid. On joue bien au foot. Donc, si on perd, c'est qu'il y a autre chose. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Pas que le foot, absolument.
Voilà. Et donc, ça va devenir cette espèce de... Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la Coupe d'Afrique 76. Avant de parler de la Coupe d'Afrique 76, je vais te parler de la CAF. Parce que c'est la CAF qui organise la CAN. Alors, la CAF, c'est quoi la CAF? C'est la Confédération Africaine de Foot.
Ouais, tu m'avais dit au début, c'était l'Égypte qui...
Elle est créée en 56 dans un hôtel de Lisbonne, par 4 pays.
OK.
L'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et c'est ces 4 pays qui vont faire la première CAN.
À Lisbonne, au Portugal.
Exactement, dans un hôtel. C'est ces 4 pays-là qui vont faire la première CAN. C'est ces 4 pays-là qui vont...
Et organiser où?
En Égypte.
En Égypte, d'accord.
Écoute, chauve, l'Égypte offre même les fonctionnaires, tu vois.
Sur son propre budget, ouais.
Sur son propre budget, évidemment. Les deux premiers présidents de la CAF, je veux dire leur nom, puisqu'on en est là, Abdullah Salem et Abdelaziz Mustafa, sont des Égyptiens. Donc, on est dans ce monde-là. C'est l'Égypte, pour te dire, a compris très vite l'importance d'une Coupe d'Afrique des Nations.
Non, on est à l'Égypte de Nasser aussi. Il est impliqué dans énormément d'histoires, mettre la main un petit peu sur beaucoup de choses.
Et le Maroc, devant ça, est complètement branché sur autre chose. Mais regarde, je vais te faire une liste, tu vas comprendre exactement ce que je veux dire. En 57, donc première Coupe d'Afrique. Alors, pardon, c'était pas en Égypte la première, c'était au Soudan, juste à côté. Le Maroc n'est pas inscrit. 59, en Égypte, deuxième, pas inscrit. En 61, en Éthiopie, on est toujours dans la même zone, pas inscrit. Au Ghana, en 63, on est pas inscrit. 65, Tunisie, pas inscrit. 68, Éthiopie, pas inscrit. 70, on s'inscrit, mais on est éliminé en tour préliminaire par l'Algérie. Donc en fait, quand on arrive en 72 au Cameroun, le Ghana a déjà 2 titres et l'Égypte a déjà 2 titres.
D'accord.
Voilà le retard accumulé. Voilà, aujourd'hui, quand on compte les étoiles et que les gens se posent des questions sur pourquoi, comment, etc., l'origine story t'explique beaucoup de choses. L'origine story, c'est un pays, le nôtre, qui ne s'est pas inscrit en 57, 59, 61, 63, 65, 68, qui, quand elle s'inscrit en 70, sorti par l'Algérie, s'est vexé. Et quand elle arrive en 72 pour le premier tournoi final, première fois au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à la fin du premier tour, on a égalité avec le Congo, qui est un tirage au sort qu'on perd, et là qu'on se vexe parce qu'on dit que le tirage au sort était trafiqué. Voilà. Et là, on boude en 74.
Encore.
Donc, en résumé, je continue la liste, on s'est arrêté en 70 avec une équipe non qualifiée. En 72, premier tour, tirage au sort perdu par la pièce. Alors là, on dit qu'il y a une magouille, je ne sais pas, je n'y étais pas. Certains témoignages disent que c'est la même histoire que les Tunisiens racontent.
Ça s'est passé sur le terrain ou
non,
dans des bureaux
celle-là, elle s'est passée. Non, justement, celle-là, elle s'est passée à l'hôtel. Il paraît que quand les Marocains sont arrivés, on leur a dit, vous avez perdu. Ça, c'est,
voilà. On a tiré au sort en leur absence.
Voilà.
Okay.
Ça, c'est la seule version que j'ai, c'est la version marocaine. C'est comme quand on demande aux Tunisiens la fameuse pièce de Palerme et de Marseille. Ils t'ont dit, là, on a gagné.
Il n'est pas encore temps que
exactement.
Les Marocains expriment.
Et alors, donc, on arrive finalement en 1974. Donc, on boude suite à cette pièce. Et on arrive donc en 1976 en Éthiopie.
Est-ce qu'il y avait
et c'est celle-là qu'on gagne. Donc en fait, c'est la première.
C'est la première participation.
Sérieuse, voilà, exactement. Après avoir boudé, avoir été non inscrit.
Il y avait des éliminatoires. Ça se passait comment pour la CAN alors, pour celle de 76 justement, remportée par l'équipe nationale du Maroc.
Alors bien sûr, il y a un tournoi de qualification parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe d'Afrique des Nations, le tournoi final, c'est 8 équipes. Donc pour arriver dans les 8 équipes, il y a des tours préliminaires qui sont très durs. En fait, c'est l'équivalent des quarts de finale.
D'accord.
C'est l'équivalent des quarts de finale. Quand aujourd'hui on considère qu'un quart de finale de Coupe d'Afrique, c'est l'équivalent dans ces années-là, c'est le simple fait de se qualifier. Pour se qualifier, le Maroc a battu la Gambie, 3-0 aller, 3-0 retour. C'est bizarre ce score, je me demande si c'est pas un forfait. Le Maroc élimine ensuite le Sénégal, 4-0, 2-1, à l'aise. Et ensuite le Ghana au tir au but. Alors là déjà, pour répondre à la question qu'on s'est posée sur un podcast, on a des tirs au but, on n'a plus de pièces. Donc en 76, ils ont compris qu'il fallait
arrêter. On passe une nouvelle étape,
voilà,
c'est déjà pas mal.
On va mettre un peu de foot là-dedans. Et on arrive dans ce tournoi où il y a l'Éthiopie, pays organisateur, le Zaïre, qui va devenir la RDC, le Maroc, Guinée, Nigeria, Soudan, Égypte et Ouganda. Voilà. C'est ce tournoi-là, 1976, en Éthiopie, que le Maroc gagne. Alors, très important à savoir, la Fédération Royale Marocaine de Foot, dont on ne peut pas dire encore une fois qu'elle a mis l'Afrique dans ses priorités, on vient de le démontrer, a des gros problèmes d'organisation et de budget. Voilà. Les joueurs, pour aller en Éthiopie, restent, ne me demandent pas comment ou pourquoi, passent par l'Arabie Saoudite, ils sont invités pour des matchs amicaux, mais ils se retrouvent surtout plantés en Égypte, au Caire, 48 heures sans hôtel. Voilà, ne me demande pas comment on est arrivé là. C'est le
témoignage. Ils ont dormi dans la rue.
Non, ils ont dormi chez l'habitant, chez les Marocains.
D'accord.
Qui se sont dévoués pour les recevoir. Mais je suis sérieux.
Route vers Addis Abeba finales de la Coupe d'Afrique.
Et ça a créé des grosses tensions dans le groupe parce que Mardarescu, qui est notre entraîneur à l'époque, un Roumain, on est toujours dans l'école de l'Est, avait organisé une collecte des joueurs chez les habitants pour aller faire un entraînement. Et l'entraînement était très dur. Et les joueurs faisaient un peu la gueule en disant déjà, on n'a pas dormi, on a manger à moitié, on a passé la nuit à chercher où dormir.
Qui a vu dans l'équipe, dans cette équipe
Écoute, tu as des joueurs comme Zez, le gardien, Zahraoui, son coéquipier du MAS, Baba, évidemment, qui va marquer le fameux but, Faras, on peut parler.
Baba, c'est quelle équipe
Jdida.
Jdida, d'accord.
Jdida, ce sont ce type de joueurs-là. Et tu as une première poule qui se joue dans une ville qui s'appelle Dire Dawa, petite ville du nord de l'Éthiopie, sur un terrain infect, vraiment infect.
L'Ahmeri, quoi.
C'est vert, mais c'est pas du gaz.
C'est pas bon.
C'est vert. Techniquement, d'ailleurs, si je te lis, il y a une sorte de... Bon, il y a 300 km entre Addis Abeba et Dire Dawa, mais il n'y a pas de route. Il faut prendre des petits avions pour...
Ce que je précise quand même, ce qu'on retient de cette coupe, c'est la finale, bien sûr, le but de Baba.
Justement, c'est pas une finale.
Et la coupe emportée, mais... Non, je veux dire, la coupe emportée, mais en...
Écoute, c'est des matchs qui sont pas, déjà, qui ne sont pas retransmis.
Diffusés, ouais, c'est que
voilà.
La radio.
Voilà, c'est de la radio. C'est des matchs qui se jouent dans des conditions terribles. Dire Dawa, pour donner une idée de la taille de la ville, toutes les équipes sont dans le même hôtel. C'est une ville où il y a une cimenterie et où tout le monde est plus ou moins couvert de poussière blanche en permanence.
Wow.
C'est une ville dans laquelle le premier match contre le Soudan, on fait 2-2. Voilà, Chelif qui gagne, encore un jeudi. Chelif Abou Ali marque pour les Marocains 2 buts de Gagarine au Soudan. Alors, c'est pas Youri Gagarine, c'est un autre Gagarine. Ensuite, un Maroc-Zaïre, on est toujours à Dire Dawa dans le premier tour, où Zahraoui marque le seul but à la 80e minute. Zahraoui va rentrer dans l'équipe et ne plus en sortir.
Revanche de 74.
Exactement, de ce fameux match du Zaïre. Et ensuite, le premier tour se termine avec une victoire contre le Nigeria. Sur le premier but de Faras. Alors, il est important ce premier tour parce qu'il te qualifie en premier.
Donc, avant de nous donner les détails, mais qui était dans l'équipe
Je donnais quelques noms qui est plus ou moins les titulaires. Hamid Hezez, le fessier dans les buts, qui apparemment a fait un gros tournoi. Alors, on a très peu d'images de ce tournoi-là, l'Arbi Ahrdan du WAC.
C'était l'époque de la radio. Hein,
c'est l'époque de la radio. On peut parler de Dolmy. Alors, Dolmy, il fait les 6 matchs. Hein. Il est jeune, mais il fait les 6 matchs. Déjà qu'il y a une tête, un peu tête de rebelle, vu qu'un jour où on l'empêche de boire un soda, il veut partir du stage. Enfin, il en rigole, donc j'en rigole aussi. Mais c'était un peu son personnage comme ça qui s'emportait beaucoup
d'équipes.
Exactement. Mustapha Chérif, Jdidi avec son pote Baba qui va marquer le fameux but. Et aussi, les deux ont joué les 6 matchs. Zahraoui et Dumas, alors lui, il rentre dans le 2e match et son but l'impose dans le reste du tournoi. Évidemment, Ahmed Fallas, capitaine d'équipe, futur ballon d'or, assis là, lui qui ne fait que 4 matchs. Voilà un peu, c'est des noms qu'on connaît, mais c'est des noms, j'ai envie de dire. Et Mardarescu,
l'entraîneur.
Le roumain qui, à l'époque, a 54 ans et qui vraiment fait partie de ces techniciens qu'on a vu beaucoup arriver chez nous dans les années 70 par des accords de coopération. Voilà, on avait beaucoup d'accords de coopération avec
l'Europe de l'Est.
Voilà, et qui nous envoyait des cadres sportifs, etc.
Tu vois, d'accord. Des enseignants aussi, on en a eu un peu plus tard.
Oui, exactement. Donc voilà l'équipe. Qu'est-ce qu'elle fait à Dire Dawa? Donc elle a ce premier match nul contre le Soudan 2-2. Victoire contre le Zaïre, la fameuse revanche.
La revanche.
Et cette victoire contre le Nigeria. Alors, pour vous donner une idée, Zahraoui lui-même parle de ce match contre le Nigeria comme un match dégueulasse. En résumé, cette poule, pour moi, 76, c'est le moment où le Maroc décide d'arrêter de prendre le football africain de haut, d'arrêter de considérer que c'est un autre sport.
Puis ses performances au niveau de la Coupe du Monde.
Voilà, on mérite une sorte de Coupe d'Afrique, de prestige, sans la jouer. Il faut descendre, il faut aller jouer à Dire Dawa, il faut se salir, il faut tacler, il faut tomber, il faut souffrir, il faut transpirer, et il faut ramener des résultats avec l'humilité d'une équipe qui se dit que les gens en face font quelque chose de mieux que nous.
Absolument.
C'est pas, voilà, ils font quelque chose de mieux que nous. Et c'est vraiment l'histoire de cette prise de conscience, cette Coupe d'Afrique. Parce qu'ensuite, à part Dire Dawa, ils vont faire le deuxième tour à Addis Abeba. Alors c'est très important de comprendre un point, c'est que le deuxième tour, c'est une poule de 3 équipes. Il n'y a pas de finale. C'est la seule fois où ils ont fait ça. D'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on dit le Maroc a gagné la Coupe d'Afrique sans finale, c'est qu'il n'y avait pas de finale.
C'est comme ça que la chose était organisée.
C'est une poule finale. La poule finale, elle est comment? Maroc, Égypte, Nigeria, Guinée. Donc tu vas jouer 3 matchs contre les 3 autres équipes et celui qui va se classer premier de ces 4 équipes va être champion.
Et déclaré gagnant.
Exactement. Il n'y a pas de finale. Il n'y a pas de demi-finale, il n'y a pas de quart de finale. Voilà. C'est le tournoi qui va être fabriqué comme ça et c'est le seul qui va être fabriqué comme ça. Mais avant, il faut aller à Addis Abeba. Et là, il y a un épisode que tous ceux qui ont vécu se rappellent par cœur. C'est le décollage du petit avion de Dire Dawa, le réacteur qui prend feu, les joueurs qui paniquent, et qui voient le petit avion retourner à Dire Dawa en feu, et littéralement se reposer dans le même aéroport avec un niveau de stress et de peur. Il y a des joueurs aujourd'hui qui ne prennent toujours pas l'avion depuis. Voilà, qui sont rentrés de là-bas parce qu'ils n'avaient pas le choix, et qui depuis, à chaque fois qu'ils montent dans un avion, on la trouille. Ensuite, il y a des grandes négociations avec l'ambassadeur du Maroc à qui ils expliquent qu'ils ne vont pas monter dans le nouvel avion, qu'il faut leur envoyer un transport terrestre. Le transport terrestre, c'est pas possible. Un grand avion, c'est pas possible parce que la piste de Dire Dawa ne peut pas encaisser ça. Voilà, ils vont finir par arriver avec.
Voilà. Déjà le parcours chaotique, l'Arabie Saoudite, l'Égypte chez les habitants.
C'est un exploit. Alors, à Addis Abeba, l'ambiance elle change puisque l'OUA a organisé son sommet. Donc il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de délégations.
En même temps, pendant la
Coupe d'Afrique. Voilà. L'Éthiopie a fait une CAN et un sommet de
chefs d'État d'Afrique.
Exactement. Dans cette poule finale, cette fameuse poule finale, le Maroc commence par battre l'Égypte 2-1.
D'accord.
Voilà, encore Zahraoui qui marque et Fallas. Battre le Nigeria 2-1. Mais se trouve encore sous la menace de la Guinée. Parce que la Guinée, si elle bat le Maroc, elle va passer première de la poule. Et c'est là où il y a le fameux un partout, Maroc-Guinée. Alors c'est Chérif Souleymane qui marque le premier but pour la Guinée et l'égalisation de Baba qui arrive sur un tir de très loin qui a atteint le titre un peu mythologique de but de Baba parce que il est arrivé tard, parce qu'il est arrivé de loin, parce qu'il est arrivé par un défenseur. Voilà, parce qu'il est arrivé pour égaliser. C'est comme ça que le Maroc gagne cette Coupe d'Afrique. Les gens, la plupart des gens l'ont vu. Si vous allez maintenant à Jdida, vous allez entendre cette histoire de Baba qui l'a raconté beaucoup, qui est fatigué de la raconter. C'est comme ça que le Maroc gagne sa Coupe d'Afrique. C'est comme ça que le Maroc, en égalisant, garde la première place de la poule et rentre. Comment ils rentrent d'ailleurs? Ça aussi, c'est une aventure, parce qu'on va pas faire bêtement un Addis Abeba, Casablanca ou Rabat. Non, pas du tout. Il faut aller à Rome en vacances, faire des courses, profiter des petites distributions. Exactement. Et à 3h du matin, on les réveille pour leur dire que le roi a envoyé un avion. Il faut aller à l'aéroport. Ils arrivent à Casablanca, depuis Nouassal jusqu'à la Wilaya. Ce qui est très très important, c'est les primes qu'ils ont reçues. Alors, quelles sont les primes reçues pour une Coupe d'Afrique en 1976? Il y a 10 000 dirhams chacun. Et un t-shirt, de la régie de tabac, un porte-clés et une cartouche de cigarette chacun. Alors, la cartouche de cigarette.
Ça faisait partie des cadeaux à l'époque.
Mais oui.
C'était la mode.
Mais bien sûr, c'était la mode, c'était la classe.
C'était pas encore interdit comment.
Mais non seulement c'était pas encore interdit, mais c'était encore le moment où le lobby du tabac nous faisait croire que c'était cool de fumer. Ouais, c'était le Cowboy Marlboro. C'était
l'Occident. Il y avait même des publicités dans les stades, partout.
Donc. Mais bien sûr. Mais là, en l'occurrence, ils ont reçu leur cartouche chacun, ils ont reçu leur titre. Et chose importante, n'avait pas du tout conscience. Parce que je le répète, c'était la troisième ou la quatrième participation au Maroc. La première participation aux éliminatoires, c'est 1972. Et voilà. Et la deuxième, c'est 76. Donc pour vous dire, entre les moments où on boudait et les moments où on n'était pas inscrit, ça a l'air facile. C'est-à-dire que ce n'est qu'avec le recul qu'on a envie de prendre conscience de l'exploit de ces gens-là. Premièrement, ils gagnent une Coupe d'Afrique. Deuxièmement, ils la gagnent dans un pays du Sud. Il y a très peu d'équipes du Nord qui ont gagné dans les pays du Sud. Pour vous dire, une idée, l'Algérie a gagné en Algérie et en Égypte. La Tunisie a gagné en Tunisie. L'Égypte a gagné la moitié de ses cannes en Égypte. Pas uniquement, mais beaucoup en Égypte. Tu vois,
c'est très difficile de gagner de l'autre côté du Sahara.
Exactement.
Parce que c'est des conditions et climatiques et d'organisation et de jeu.
Et là, donc, tu as gagné une Coupe d'Afrique. Tu l'as gagné vraiment à l'extérieur, pas chez toi, et non même pas dans ta zone géographique. On a vraiment l'impression que c'est, j'ai envie de dire, une évidence. Il y a une fête, mais elle n'est pas excessive. Voilà, c'est bien plus tard que, un, les Marocains vont faire de cette compétition un objectif. Deux, une fois qu'ils auront fait cette compétition un objectif, se rendent compte qu'elle est très difficile à gagner, parce qu'à ce jour, c'est les seuls champions d'Afrique.
Absolument, voilà. Suivi de ce ballon d'or de Farras suite à cette performance, je crois, de l'équipe...
Ben non, justement, alors là, je te contredis, parce que c'est bien ce qui me semblait. En fait, il débarque en Coupe d'Afrique avec ce statut de ballon d'or, titulaire du ballon d'or, qu'il récupère en 75.
D'accord, donc déjà l'équipe auréolée d'un ballon d'or
buteur. Il faut quand même, pour terminer, raconter la fin de cette équipe.
Ben, elle ne se qualifie pas à l'Argentine déjà.
Je crois qu'elle se fait éliminer par la Tunisie, mais plus grave que ça, c'est une équipe dont beaucoup de joueurs, au moins en tout cas Farras, Hezzel, ce genre de joueurs-là, vont participer à la catastrophique défaite du Maroc contre l'Algérie en 79.
Combien le score ?
5-1.
Oula.
Voilà.
Alors ça, c'est lourd pour une équipe
mais
avec...
C'est un traumatisme.
Auréolé par son prestige.
C'est un traumatisme. C'est un traumatisme parce que... Pourquoi c'est un traumatisme ? Parce que déjà, ce match est absurde. Ce 5-1 est absurde. Pourquoi ? Parce que ce sont les éliminatoires des Jeux Olympiques de Moscou et le Maroc va boycotter les Jeux Olympiques de Moscou.
En plus.
Donc à la limite, il aurait pu être éliminé. Mais bon, on peut aussi positiver en se disant que c'est cette défaite-là qui a donné la génération 86. Pour rester sur ce match de 79, c'est un match qui va être surchargé de politique.
Eh oui.
Tension avec l'Algérie.
Tension, ouais.
Voilà, le gouvernement qui défile à l'hôtel, dans les vestiaires, les chansons patriotiques, le public. C'est un désastre. D'accord. C'est un désastre. C'est un désastre.
À domicile, en plus.
À domicile, oui. Attention. Cette Algérie-là est très forte. Cette Algérie-là, c'est l'ossature de celle qui va battre l'Allemagne.
En 82 après.
Voilà.
Tout à fait.
Mais à ce moment-là, on ne voit pas ça.
Ouais.
On ne comprend pas ça.
On ne voit pas une équipe en pleine émergence.
Là, on voit quoi ? On voit. Le Maroc à domicile contre un voisin, parce qu'il y a des tensions politiques, qui prend une raclée. Et non seulement cette raclée est terrible, et pourquoi elle est terrible cette raclée ? Parce que aussi, à un moment, le Maroc revient 2-1. Et c'est ce 2-1 qui va précipiter la raclée. Pourquoi ? Parce qu'il bascule complètement vers l'avant. C'est irrationnel. On ne peut pas perdre. C'est pas on va essayer de réduire le score, on va essayer de voir comment ça se passe.
Et donc tout le monde d'attaque est en loss.
Voilà, c'est la panique. C'est la panique qui va avoir des conséquences terribles, puisque la fédération va être dissoute. Et qui va aussi avoir des conséquences, j'ai envie de dire, humaines, puisque j'avais parlé à, par exemple, à Hezzel, Rahmou, ce gardien de but mythique du MAS, qui avait été champion d'Afrique et qui avait été écarté suite à ce match 79, où toute l'équipe avait disparu. Il n'y avait que Dolmy qui avait réussi
le seul rescapé de 79,
parce que Clouseau avait demandé au roi Hassan II, je peux construire avec lui, et il va rester. Mais Hezzel, pour lui, cette surpolitisation de l'événement, cette surcharge émotionnelle, cette presque vengeance sur les joueurs, qui étaient finalement les seuls qui avaient gagné une Coupe d'Afrique, c'est pour lui un signe de sous-développement. C'est comme ça qu'il en parlait. Il prenait l'exemple du Brésil qui avait perdu. Il disait, il n'y a pas de raison. On gagne, on perd. Il n'y a pas de raison défouler.
7-0, je ne sais pas combien, là, contre l'Allemagne.
À domicile, alors, il n'y a pas la tension politique qu'il y avait à l'époque. Ouais. Mais garder le sport dans le monde du sport, c'est en général une bonne idée pour éviter les déconvenues et surtout l'injustice que tu fais subir à une génération qui, avec le recul, t'a ramené une Coupe d'Afrique et qui a fini comme ça dans le chaos.
Absolument.
Voilà, donc une troisième lecture des choses en disant cette génération 76, cette Coupe d'Afrique dont on a très peu d'images, cette Coupe d'Afrique qui est le seul moment où le Maroc s'est dit on va se retrousser les manches, on va aller mettre les mains dans le charbon et on va y aller. On va constituer une équipe, on va se bagarrer, on va monter dans des avions qui prennent feu, on va aller dans des hôtels avec les autres. Voilà, toute cette espèce de manque d'humilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tourné cette page-là, eh bien, il y a eu cette Coupe d'Afrique. C'est très important pour moi d'expliquer que c'est plus une question d'attitude que le sport. Voilà. C'était un peu, j'ai envie de dire, la fin de l'arrogance.
Voilà. C'est l'équipe qui va briller en 86, qui va passer de nouveau...
Non, l'équipe qui va briller en 86, elle va être complètement... parce que cette équipe de 76 est complètement renouvelée après 79. Et donc 86 arrive après le désastre de l'Algérie.
Ouais, on a eu la Coupe du Monde en Argentine, c'est la Tunisie qui...
Oui, c'est la Tunisie très importante, exactement. La Tunisie
performance.
Qui bat... Contre... Non, la Tunisie, si je me rappelle bien, bat le Mexique. La Tunisie bat le Mexique, fait match nul avec la RFA. Alors c'est fou la RFA, ouais, c'est fou la RFA, parce que cette RFA là, qui pour les Maghrébins, c'est la RFA, c'est un peu le, c'est le Hadid de l'Allemagne, voilà, c'est le Hadid de l'Allemagne, c'est le truc solide et tout.
L'Allemagne.
Finalement, le Maroc lui tient tête en 70, la Tunisie égalise contre elle en 78, et l'Algérie là-bas en 82. Là-bas en 82, donc avec le recul, ils ont plutôt du mal avec les Maghrébins, et la fascination qu'ils exercent ne se traduit pas par des scores larges. Voilà, on a l'impression qu'on va prendre une raclée. En fait, les Maghrébins ne prennent pas une raclée. Voilà, la Tunisie en 78,
l'Algérie en 82.
Et le Cameroun, deux grosses participations. Pourquoi l'Algérie ? Parce que l'Algérie gagne l'Allemagne au premier tour. C'est la fameuse Algérie qui nous a battus ici.
C'est la même, voilà, celle qui a battu le Maroc en 79, a battu l'Allemagne.
Exactement, avec Blomé, Assad, etc. Et se fait sortir par une entente un peu lanchelousse germano-autrichienne.
Ah.
Voilà, et depuis...
Ils ont une combine pour arranger un match.
C'est un score qui qualifie les deux équipes. Et ce score va avoir lieu. Pour information, depuis le règlement a changé, les deux équipes, les quatre équipes jouent en même temps. Donc c'est difficile.
C'est depuis ce match que...
Oui, monsieur. Depuis ce match qu'on a estimé qu'on ne pouvait pas faire jouer les équipes les unes après les autres. Parce que voilà. Ouais. Et il y a une deuxième équipe africaine en 82 dont il faut parler. C'est le Cameroun qui est éliminé après trois matchs nuls. Voilà. Dans le même groupe que le Cameroun, il y a également l'Italie. Donc c'est une, disons, belle participation africaine en 82 qui va être confirmée par le parcours du Maroc en 86 dans un prochain podcast.
Merci Reda, c'est passionnant. J'ai ignoré énormément de choses sur toute cette histoire rocambolesque de cette équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique et qui finit en queue de poisson, très mal, en 79 pour rebondir beaucoup plus tard. As-tu quelque chose à rajouter ?
Oui, j'ai une petite histoire, la beauté du foot. La beauté du foot, c'est l'histoire de M. Chérif Souleymane, qui est le buteur guinéen qui a marqué contre le Maroc à la 33e minute sur le but de Zez et qui a eu le malheur de voir Baba égaliser et perdre cette entre guillemets finale, mais c'était pas une finale. Ce monsieur Chérif Souleymane, un jour, il est de passage avec son club de Oroya Conakry, je sais pas s'il était dirigeant ou quelque chose, à Fès, pour jouer contre le MAS. Et c'est là on lui dit, mais c'est la ville de Zez à qui tu as marqué un but. Et il dit, mais comment mène chez ce monsieur Zez, puisque j'ai envie de le voir. Et il débarque comme ça. Donc Zez raconte qu'un jour, il sort chez lui et il voit Chérif Souleymane, il appelle Zahraoui, et ils déjeunent ensemble. Et il en parle que très très bon moment de partage footballistique, des années et des années après cette finale, ce bonhomme-là, un jour, a sonné chez lui.
C'est extraordinaire, c'est fair play, mais c'est ça le foot aussi. Cette amitié qui est née entre les adversaires et le beau geste de chercher un petit peu son
adversaire,
son adversaire pour manger ensemble et se rappeler les bonnes choses. Et ben merci pour cette histoire, Reda Allali. Merci à vous. Au prochain podcast.
Avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc.